Europe 1, 13h, 14h, les carnets du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europa 1.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, ravi d'être avec vous jusqu'à 14h et c'est parti pour une grande vadrouille. Elle nous mènera d'abord au Soudan où les habitants se soulèvent depuis 4 mois. Au début pour protester contre le triplement du prix du pain, mais la révolte est vite devenue politique. Et cette semaine, le dictateur al-Bashir est tombé après 30 ans de règne et les Soudanais refusent de se voir confisquer leur révolution. Dans une toute autre ambiance, je vous présenterai les marathoniens du pape. Car oui, le Vatican a désormais son équipe officielle d'athlètes. Certains couraient le marathon de Rome le week-end dernier. Et puis, dossier passionnant que nous offrent nos correspondants aux États-Unis, en Chine, en Thaïlande et en Allemagne sur la crise du recyclage. Jusqu'à il y a un peu plus d'un an, la Chine achetait tous nos déchets plastiques et s'en occupait. Mais voilà, elle a décidé de ne plus être la poubelle du monde et nous voilà bien embêtés avec tout ce plastique. Nico Caro a dégoté un chouette roman qui nous transportera en Irlande et Joseph Chovanec nous fera l'éloge des territoires oubliés où il fait bon poser ses valises. Les carnets du monde sont ouverts et on prend la direction du Soudan. Semaine riche en rebondissements pour ce grand pays d'Afrique qu'est le Soudan. Jeudi, celui qui dirigeait le pays d'une main de fer depuis 30 ans, Omar el-Béchir, était renversé. Renversé par une foule dense et pacifique qui campait devant le QG de l'armée à Khartoum jour et nuit avec détermination. Voilà, c'est l'un de ces chants hein, de poésie populaire scandé en l'occurrence par cette jeune étudiante, Ala Salah, devenue un peu l'icône de la révolte, après que sa photo a fait le tour du monde. Et la foule lui répond « Taora », qui signifie « révolution ». Je le prononce sûrement très mal. Bonjour Rachid Saïd Yagoub.
Bonjour.
Vous êtes soudanais, journaliste indépendant, ancien diplomate, opposant et réfugié en France depuis des années parce qu'il vous était impossible de vivre sous le régime d'Omar al-Béchir. Alors tout va très vite. Depuis jeudi, un conseil militaire de transition avait pris la main avec à sa tête le numéro 2 du régime, un général fidèle au dictateur depuis toujours. Et puis les sit-ins ont continué, les slogans ont perduré, les mêmes, seul le nom scandé changeait. Et le nouvel homme fort n'a pas tenu 24 heures, il a démissionné vendredi soir au profit d'un autre militaire. Est-ce que la situation cependant est différente cette fois, Rachid Saïd Yagoub?
Non, la situation n'est pas différente parce que encore les militaires continuent à confisquer le pouvoir et c'est ça le problème aujourd'hui pour les manifestants. C'est pour ça les sit-ins continuent, les manifestations continuent. Le SPA, l'association de professionnels soudanais, a appelé les gens à rester mobilisés dans la rue parce que le général qui a pris le pouvoir, il a été lui aussi cité dans les crimes au Darfour et en plus il a nommé comme vice-président les chefs des Janjaweed, les milices qui s'appellent aujourd'hui Rapid Support Force comme vice-président. Ouais. Et ça semait les doutes, surtout parmi les manifestants et les gens dans la rue.
Alors cet homme qui s'appelle Abdel Fattah al-Burhan, et il est assez peu connu du grand public, il a quand même donné des gages. Hier, il s'est passé quand même des choses, il y a certaines lignes qui ont bougé, le couvre-feu a été levé, il n'y a plus de couvre-feu, il y avait un risque de dérapage la nuit. Et puis, le puissant chef des services de renseignement, le NIS, qui est responsable de la répression, a démissionné hier.
Oui, la mobilisation a continué dans la rue et ça a obligé les militaires à donner des concessions. Et hier soir, pour la première fois, il y avait une rencontre entre les révolutionnaires et le conseil militaire qui a été instauré par l'armée.
Alors justement, qui sont les interlocuteurs de la société civile qui est allé discuter hier soir avec ce nouvel homme fort du Soudan? Ceux qui ont mené cette révolte, eh bien, c'est cette association des professionnels soudanais que vous citiez à l'instant, une sorte de syndicat alternatif qui a coordonné les protestations de tous ces derniers mois. Qui sont-ils? J'ai posé la question à Clément Dehaye, chercheur à Paris 8, spécialiste du Soudan et des mouvements contestataires. On en reparle avec vous juste après.
La SPA, c'est un regroupement d'associations professionnelles qui s'est recréé à peu près depuis les années 2010. Donc ce sont des associations professionnelles de médecins, d'avocats et de journalistes à la base et qui ont été rejoints depuis par des associations de pharmaciens et d'enseignants du secondaire et du supérieur. Les syndicats officiels sont tenus par le régime et pour contrer le régime et faire une nouvelle force d'opposition, un certain nombre d'associations professionnelles se sont recréées ces dernières années.
C'est à la fois la coordination des protestations, des manifs, et à la fois c'est une sorte de laboratoire d'idées, c'est ça?
Alors oui, ils ont été à la tête des appels de manifestation, même si, évidemment, il y a aussi des comités locaux révolutionnaires qui se sont mis en place. Et ils ont aussi proposé un certain nombre de propositions donc pour sortir de la crise. Et ils ont également établi un dialogue avec les partis politiques d'opposition.
Ouais, et alors ça, c'est une coalition plus large qui s'appelle la Déclaration pour la liberté et le changement. On peut dire que c'est une sorte de coalition de l'opposition.
Exactement. En fait, la déclaration a été posée par cette déclaration pour la liberté et le changement a été posée par l'Association des professionnels et depuis signée par la plupart des coalitions d'opposition. Donc, qui sont des alliances qui regroupent à la fois les groupes armés, les initiatives de la société civile, donc un certain nombre d'associations, et les partis d'opposition plutôt de gauche et le Parti communiste soudanais.
On peut penser que les dirigeants du Soudan de demain sont parmi ces organisations, notamment la SPA, l'Association des professionnels du Soudan.
Très probablement, puisque si la révolution continue et réussit, la transition démocratique qui est prévue par l'Association des professionnels et la Déclaration du changement est une transition de 4 ans, menée par un gouvernement d'experts et issus de la société civile et non pas nécessairement de politiciens et chefs de parti.
Est-ce qu'il y a un homme providentiel au Soudan aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'homme providentiel. La dynamique est plutôt une dynamique collective dans l'opposition. L'association des professionnels est restée quand même dans l'ombre pendant très longtemps puisque le régime est très répressif. Et donc cette clandestinité ne permet pas de faire émerger deux personnalités. Mais par contre, on a vu la constitution d'alliances et de collectifs d'opposition qui sont à même demain de prendre en main les choses.
Voilà, clandestinité ou exil, hein, puisque vous êtes, Rachid Saïd Yagoub, l'un des porte-parole de cette association des professionnels soudanais. Est-ce que vous avez le sentiment que cette force acquise par la société civile est irréversible, que la rue a toujours la main aujourd'hui dimanche ?
Jusqu'aujourd'hui, oui, je pense que la rue a toujours la main. Les gens sont restés encore mobilisés. Hier soir, il y avait un sitting géant devant le QG de l'armée. On a présenté nos demandes à l'armée. On attend des réponses claires sur un certain nombre de points. Et c'est à partir de là qu'on décide si on va accepter de former le gouvernement que le Conseil militaire a proposé aux forces de changement et de la liberté de former.
Le nouvel homme fort a promis hier d'éliminer les racines du régime d'El-Béchir, de faire juger les responsables de la mort des manifestants, etc. Est-ce que vous, Association des professionnels soudanais, vous y croyez ? Est-ce que c'est un discours que vous entendez ?
Nous, on entend des actes. Le parole, on en a assez. Ça fait des mois, depuis 4 mois, on entend des promesses de la part de l'ancien régime, des responsables. Nous, on entend des actes. Ils ont le pouvoir, ils ont le moyen de légiférer par décret aujourd'hui et ils peuvent le faire. Il y a beaucoup d'institutions de l'ancien régime qui continuent à travailler et qui font face aujourd'hui, quand on regarde par exemple la télé et la radio officielles, sont toujours tenues par l'ancien régime. On voit que les messages qu'ils diffusent, c'est des messages qui sont contre la révolution. C'est pour ça, je pense qu'on attend des actes.
Beaucoup de vigilance.
Beaucoup de vigilance et beaucoup de mobilisation encore. Beaucoup de vigilance et beaucoup de mobilisation et surtout mobilisation de la jeunesse et des femmes. Parce que c'est eux qui sont derrière cette révolution et je pense qu'ils vont être très vite dessus si on continue sur le chemin actuel.
Les femmes, on parlait tout à l'heure de cette étudiante qui est devenue un peu l'icône dans le monde entier parce que cette photo est magnifique, elle harangue la foule debout sur une voiture. Quel est le rôle, la place des femmes dans cette révolution ?
D'abord, les femmes aujourd'hui, par exemple dans les universités, elles représentent 70% des étudiants. Beaucoup de jeunes garçons ont quitté le pays vers les exils pour éviter
la
répression et la situation dans le pays. Deuxième chose, les femmes étaient les premières victimes de ce régime sous les lois de l'ordre public qui obligeaient les femmes à s'habiller d'une façon particulière, de ne pas sortir dans les rues toutes seules, de ne pas danser.
Voilà,
c'était un régime islamo-militaire. Et troisième chose, parce que les femmes étaient dans le devant de ces manifestations, on les voyait, ils dirigeaient, et toutes les manifestations à Khartoum commençaient par des yo-yo des femmes.
C'est un moment historique qui se joue dans votre pays ?
C'est un moment historique, mais difficile, compliqué. Mais je suis confiant que le peuple soudanais va traverser ces zones de turbulence pour atterrir dans un régime pacifique, démocratique, avec la paix, démocratie et changement vers l'avenir.
Vous programmez un voyage au Soudan ?
À bientôt.
Ça fait combien de temps que vous n'y êtes pas allé ?
10 ans. Ça va être quelque chose, oui. Ça va être quelque chose.
Merci beaucoup. Merci Rachid Saïb Yacoub pour votre regard éclairant sur le Soudan. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendant, ancien diplomate, porte-parole de cette association des professionnels soudanais qui est au cœur du changement de la révolution en cours au Soudan. Merci.
Merci.
Europe 1.
Changement complet de lieu et de perspective pour le prochain sujet. Ils laissent soutane et uniforme de garde suisse au vestiaire et chaussent leurs baskets pour s'aligner sur la ligne de départ. Ce sont les marathoniens du pape. Le Vatican a désormais son équipe officielle d'athlétisme. On vous la présente dans un instant.
Europe 1, les carnets du monde.
Et c'est jusqu'à 14h avec vous Sophie Larmoyer. En ce jour de Marathon de Paris, dans les carnets, on vous présente les athlètes du pape.
Le drapeau jaune et blanc du Vatican sur un podium olympique, c'est un rêve qui pourra désormais se réaliser. Depuis le 1er janvier de cette année, le Saint-Siège a sa propre équipe officielle de sportifs. C'est une première. L'équipe s'appelle Atletica Vaticana. Les athlètes du Vatican, ils sont une soixantaine, religieux ou laïcs, qui travaillent pour l'État du Vatican. Passionnés de course à pied et catholiques, ils ont troqué leurs habits de prêtre ou de garde suisse pour s'entraîner. Leur moteur commun, c'est la foi. Et il y a une semaine, ceux qu'on surnomme déjà les marathoniens du pape ont justement couru à Rome leur premier marathon de cette toute nouvelle équipe du Vatican. C'est un reportage de Blandine Hugonnet.
Avec le soleil du marathon de Rome.
À quelques mètres du Colisée, dans un ultime effort, un coureur en maillot jaune et blanc passe la ligne d'arrivée, épuisé sous les applaudissements et les chronomètres qui tournent.
J'ai fait 4h15. C'est mon premier marathon.
Voici le père Augusto, médaille autour du cou, couverture de survie sur le dos. Ce dimanche, ce prêtre brésilien ne s'est pas levé pour célébrer la messe, mais pour courir les 42 195 km du marathon, défi de taille accompli en tant que membre de la nouvelle équipe d'athlétisme du Vatican.
Vraiment, être ici, faire cette course, la reine des compétitions, en tant qu'athlète du Vatican, c'est vraiment beau. Parce qu'il y a cette force qui te pousse toujours plus. C'est grâce à Dieu, vraiment. Et même si quand on est parti, il pleuvait beaucoup, j'y suis arrivé jusqu'au bout.
La veille de cette course, les athlètes du pape s'étaient donné rendez-vous dans une église de Rome. Tenue de l'assemblée ce jour-là, basket et jogging pour cette célébration un peu particulière. Organisée par les coureurs du Vatican, ils l'appellent la messe du marathon. Car pour ces sportifs catholiques, pas question de partir courir sans prier avant. À l'entrée, ils distribuent la prière écrite pour les marathoniens.
Merci Seigneur d'être à mes côtés dans les moments de fatigue.
Tenue de sport bleu marine, deux bandes jaunes et blanches sur son épaule droite, un logo des clés de Saint-Pierre sur l'épaule gauche. C'est le nouvel uniforme de Thierry Roch, ce jeune garde suisse qui porte d'habitude un habit haut en couleur quand il est posté à l'entrée du Vatican. Courir pour le pape et protéger le pape, deux missions qu'il mène de front tous les jours.
Moi, c'était primordial de pouvoir garder la course à pied comme activité sportive, tout en tant que garde suisse, étant donné qu'on est des heures justement debout sans bouger. J'essaie de m'entraîner tous les jours pour pouvoir atteindre un certain niveau. Ce sens du sacrifice qu'on fait déjà en tant que garde suisse pour l'Église, c'est assez similaire au final. Je crois qu'une force peut-être un peu plus haute nous aide justement à surpasser ces moments comme le marathon. On ne se sent jamais seul en fait.
Laïcs ou religieux, les sportifs du Vatican portent tous ce même maillot, y compris la française Sœur Marie Théo. Deux fois par semaine, elle enlève son voile et sa robe de religieuse pour fouler les pavés de Rome. Pour cette semi-marathonienne de 47 ans, impossible de vivre sa foi sans la course à pied et inversement.
Je vais être honnête, je ne me suis pas mise à courir dans l'idée que ça allait me permettre d'exprimer ma foi. Je me suis mise à courir parce que c'était pour moi une source d'équilibre et de bien-être. Mais petit à petit, en courant, cette paix intérieure à laquelle je pouvais accéder venait alimenter ma foi. Et spécialement dans les compétitions, j'ai souvent dit, c'est pas que je prie en courant, c'est que ma course devient prière. La course qui passe par mon corps, par mes jambes, par ma respiration, pour moi est un peu cette expression du souffle de Dieu qui pousse en avant. Et ça, c'est vraiment puissant.
Camille est venue à la messe avec son père, un professeur suisse d'une université du Vatican. Grâce à lui, elle peut faire partie des coureurs du pape, surtout qu'elle a tout d'une sportive professionnelle. Silhouette élancée, muscles dessinés, elle suit un entraînement quotidien, sa discipline, 5 et 10 000 mètres sur piste. Une décrocheuse de médailles motivée par une victoire aux couleurs du Vatican.
Quand je cours, je dois admettre que souvent dans les moments de difficulté, ça m'arrive de prier. Mais de toute façon, courir, comme c'est un effort physique, ça permet aussi au mental d'être libre, de pouvoir méditer. Donc d'avoir cette équipe qui s'allie ensemble les deux aspects de ma vie qui sont d'un côté la foi et de l'autre le sport. Donc on veut aussi participer aux compétitions internationales et pourquoi pas de gagner, hein, parce que moi j'aime aussi gagner. Mais on veut partir du petit pour arriver peut-être un jour au grand.
À la fin de la célébration, les marathoniens s'avancent dans l'église pour recevoir la bénédiction. Un coup de pouce de Dieu toujours bienvenu pour le père Guillaume. Ce prêtre béninois s'apprête à courir son 136e marathon.
Croyant avec une bénédiction comme ça, forcément, vous partez avec une chance supplémentaire. Tous ceux qui ont fait ce marathon-là savent qu'ils ont passé des heures et des heures en entraînement. Mais si tu peux passer quelques minutes en entraînement spirituel, ben, tu fais la différence. Quand il y a des situations où je n'en peux plus, je ne peux pas déprimer, je prends mon chapelet. Je dis oui, c'est de la triche, mais de la bonne triche, comme on parle parfois du bon dopage.
Pour être béni lui aussi, Ansu Cissé s'est mis dans les premiers rangs des fidèles catholiques, lui qui est pourtant musulman. Ce réfugié d'à peine 20 ans est arrivé il y a 2 ans du Sénégal. Il vit dans un centre d'accueil près de Rome et depuis 3 mois, il est membre honoraire du club d'athlétisme du Vatican.
Je suis arrivé en Italie en traversant le désert et la mer Méditerranée et puis voilà. De manière générale, j'aime le sport, mais moi je suis de la religion musulmane. Et s'intégrer dans une équipe du pape François, les deux premiers jours, comme on avait dit, bon, j'avais pas cru, surtout dans une équipe d'athlètes de la religion différente, et ça montre que malgré la différence, il y a toujours la solidarité à côté, la paix, l'union et puis voilà.
Une équipe d'athlètes amateurs mais performants au marathon de Rome, les coureurs du pape ont tous fini la course en moins de 5 heures. Le plus rapide est un jeune prêtre polonais, arrivé 660e sur 10 000 participants. Rome, Blandine Hugonnet, Europe 1.
De retour dans les studios d'Europe 1 après ce marathon de Rome. Et on est toujours un peu là-bas, en ligne avec Blandine Hugonnet. Bonjour Blandine.
Bonjour Sophie.
Voilà une équipe originale. Comment s'est-elle constituée ?
Alors, au départ, ce sont des employés du Vatican qui se croisaient en faisant leur footing du matin sur les bords du Tibre, le fleuve de Rome. Et à force, ils ont eu l'idée de former une équipe pour s'inscrire ensemble à des courses. Et finalement, en septembre dernier, le Vatican a donné un statut juridique à ces athlètes. Et puis a même signé un accord avec la Fédération italienne d'athlétisme. Et c'est comme ça qu'est né le premier club sportif officiel du Saint-Siège.
C'est une équipe au profil très varié. Hein.
Oui, et international aussi. Hein. C'est 62 athlètes sur 17 nationalités différentes. Alors dans l'équipe, ça va de l'archiviste aux gendarmes, en passant par les employés des hôpitaux ou des musées du Vatican. Il y a aussi, bien sûr, des religieux qui travaillent au gouvernement du Saint-Siège. Ils ont de 19 à 62 ans. Et puis, il y a aussi des membres honoraires, comme des athlètes handicapés qui pourront bientôt concourir avec ce logo des clés de Saint-Pierre.
Et alors, à quoi ça sert pour le Vatican d'avoir une équipe de sport officielle ?
Vous savez, le Vatican s'intéresse au sport depuis longtemps, en fait. Le micro-État a son équipe de prêtres footballeurs depuis 1972 et même son équipe de cricket depuis 2013. Tous ces sportifs catholiques ont un message à faire passer. Et d'ailleurs, depuis 15 ans, il existe au Vatican une sorte de ministère des sports. Il est dirigé par Mgr Sanchez de Toca. Il est aussi président d'Atletica Vaticana.
Le sport est un instrument formatif, éducatif incroyable. Et le pape, il a dit que le sport, c'est la forge des vertus. Nous n'avons pas créé ce groupe pour courir et basta, mais pour souligner la dimension de la solidarité, de l'amour envers les plus faibles, les pauvres. Porter le témoignage de la vie chrétienne dans le monde du sport qui est très populaire. Et pour témoigner l'importance que l'Église donne au sport.
Et pour donner aussi un message d'intégration, deux jeunes réfugiés musulmans ont été adoptés par ces marathoniens du pape.
Super. Est-ce qu'on va retrouver ces coureurs du Vatican aux Jeux Olympiques ?
Pourquoi pas, en 2024, à Paris peut-être. En tout cas, depuis le 1er janvier dernier, l'Atletica Vaticana est reconnue officiellement par le Comité Olympique Italien. Et à ce titre, les athlètes sont habillés par un sponsor, coachés par un professionnel. Ils ont accès à des installations sportives et médicales. Leur prochaine grande compétition, ça sera fin mai au Monténégro pour les Jeux des Petits États d'Europe. Et première fois que 4 athlètes du pape porteront le drapeau jaune et blanc de l'État du Vatican dans une compétition internationale.
Voilà, les athlètes du Vatican, 62 sportifs de 17 nationalités et un nouveau drapeau dans les manifestations sportives. Merci beaucoup, Blandine, de nous avoir raconté la naissance de cette équipe. À bientôt.
À bientôt.
Europe 1, les carnets du monde.
Découvrir le monde autrement grâce aux écrivains étrangers. C'est ce que nous propose Nicolas Carreau tous les dimanches, Sophie Larmoyer.
Un livre dans le monde, c'est une autre manière de voyager. Bonjour Nicolas.
Bonjour Sophie.
Et alors cette semaine, chouette, vous nous emmenez en Irlande.
Avec Donal Ryan, grand écrivain, finaliste du Man Booker Prize en 2013, l'un des plus prestigieux prix littéraires du monde. Il revient avec « Tout ce que nous allons savoir » chez Albin Michel. C'est l'histoire de Melody Shea. C'est elle qui raconte. Elle a 33 ans, elle vit dans une petite ville irlandaise où elle donne des cours d'anglais. Elle vit avec Pat, son amour de jeunesse, mais le roman s'ouvre sur un drame. Enfin, un drame, ça se discute. Mélodie est enceinte.
Ben moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle.
Ben oui, mais non, elle n'est pas enceinte de Pat. Ah. Oups. Et attendez, elle est enceinte de son élève, Martin Taupi, 17 ans. Ça fait mauvais genre, d'autant que Martine fait partie de la communauté des gens du voyage. Dans une petite ville comme ça, c'est la totale. Elle annonce à Pat la bonne nouvelle, il s'en va sur le champ et elle nous raconte ensuite l'avancée de sa grossesse. Un chapitre correspond à une nouvelle semaine. Mélodie parle de sa vie d'avant, elle remonte à sa jeunesse. Elle repense aussi à une amie d'enfance qu'elle a trahie. Elle repense au début de son couple, au moment aussi où celui-ci s'est délité. Et on explore aussi la cruauté, l'appétit pour le scandale dans une petite ville d'Irlande. Mais bien entendu, comme tous les bons écrivain, Donald Ryan en fait quelque chose d'universel. Il m'en a parlé. Ouh. Quand il est venu en France, il est passé par Europe 1.
C'est vrai dans toutes les petites villes partout dans le monde, dans les communautés réduites. Vous savez, la ville natale de Mélodie, c'est vraiment comme un grand village où tout le monde partage les mêmes certitudes politiques et religieuses. Et donc avoir eu une aventure avec un jeune garçon qui fait partie de la communauté des gens du voyage, qui plus est être enceinte de lui, c'est un énorme scandale. C'est de l'or pour beaucoup de ces gens. C'est sans doute la plus belle histoire, le plus beau scandale qui puisse être. En plus, c'est une sorte de maîtresse d'école. Et donc pour un scandale comme ça, dans cette ville, c'est délicieux finalement.
En gros, elle est mise au banc.
Exactement. Ouais. C'est-à-dire que socialement, elle n'a plus le même statut. C'est le cœur du sujet dans ce livre. Mmh. Les relations, les différences sociales, comment chacun se débrouille avec sa position dans la société. L'amant de Mélodie est donc un membre de la communauté des gens du voyage, c'est-à-dire les intouchables en fait. Et c'est dans cette même communauté que Mélodie va faire une rencontre salvatrice avec une jeune fille rejetée au sein même de sa communauté. C'est ça ce livre. Mmh. C'est la violence des rapports humains à toutes les échelles et les barrières de classe.
C'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, à quel point nous sommes déterminés par notre éducation. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été élevé sans jamais avoir entendu parler de différences sociales. Mes parents étaient du genre égalitariste de ce point de vue-là. J'ai grandi un peu ignorant du monde, je n'avais même pas conscience des différences de classe et j'étais choqué quand j'en ai pris conscience. Et donc ça a été comme une révélation de constater à quel point la société était divisée, comment les gens se traitaient entre eux, se jugeaient sur ces bases-là qui n'ont en fait aucune signification, si on réfléchit bien.
Pas de signification, mais ces différences sociales, elles ont des répercussions bien concrètes.
Bah exactement, et il s'exerce une forme de violence dans les rapports humains. Il y a une scène terrible dans le livre. Mélodie se remémore sa jeunesse. Elle se souvient de sa mère en particulier qui traitait son père assez mal parce qu'il ne visait pas assez haut socialement. Ouais. Alors le matin, elle les entend se disputer et le soir, elle regarde son père autrement et décide qu'elle ne peut plus l'aimer comme avant, que d'une certaine manière, il n'en est plus digne. Ouais. C'est terrible, mais c'est ce même père qui, 20 ans plus tard, sera le seul à veiller sur elle quand elle sera au cœur du scandale. C'est un roman dense qui explore l'humain, donc cet animal étrange sous toutes les coutures. L'auteur est intéressant aussi. Aujourd'hui, comme je vous le disais, Donald Ryan est un auteur reconnu, applaudi, mais il a essuyé plus de 40 refus d'éditeurs. Je le dis pour ceux qui se découragent, lui, il a tenu bon.
J'ai envoyé mon manuscrit à pratiquement tous les éditeurs et à tous les agents du Royaume-Uni et même aux États-Unis. Et tout le monde m'a dit non. Seulement non, je n'ai même pas eu droit à des encouragements, à des explications, c'était juste non. Une seule phrase. Je me rappelle, une très grande maison d'édition avait renvoyé mon manuscrit avec juste quelques mots sur un morceau de papier qui disait « pas pour nous », un truc comme ça. Et donc je n'avais plus vraiment d'espoir, je ne voyais vraiment pas qui pourrait me publier, mais j'ai continué par pur entêtement.
Ouais, message à tous les écrivains, accrochez-vous. Lui, il a été tenace, Donald Ryan, et on peut donc lire son nouveau roman « Tout ce que nous allons savoir ». Qui en a fait la traduction ?
Marie Hermé.
Merci beaucoup, Nicolas.
Mais je vous en prie.
Europe 1.
Êtes-vous bien sûr de ce que deviennent vos déchets recyclables lorsque vous les déposez dans la bonne poubelle ? Parce que depuis que la Chine a décidé d'arrêter d'importer les vieux plastiques du monde entier, le secteur est en crise. Dossier à suivre.
Europe 1, les carnets du monde.
À 13h30, on s'intéresse aux déchets recyclables. Que deviennent-ils une fois qu'on les a déposés dans la bonne poubelle ? Eh bien, la réponse ne va pas de soi, Sophie Larmoyer.
8 familles de produits jetables en plastique seront complètement interdits en Europe d'ici 2021. Un très bon début, mais ça ne devrait pas suffire à enrayer la crise du recyclage qui prend de l'ampleur ces derniers mois. En fait, depuis que la Chine a décidé d'arrêter d'importer les déchets des autres du monde entier, ce qu'elle faisait jusqu'en janvier 2018. On va revenir sur ce volet chinois tout à l'heure. On ira retrouver notre correspondant à Pékin, mais notre première destination sur le sujet, ce sont les États-Unis. Bonjour Xavier Yvon.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Correspondant d'Europe 1 en Amérique. Alors, elle est de quelle ampleur cette crise du recyclage chez vous ?
Il faut imaginer 4000 containers remplis de déchets recyclables. C'est ce qui partait chaque jour des États-Unis vers la Chine. Et donc aujourd'hui, des centaines de villes à travers tout le pays ne savent plus quoi faire de leur plastique, de leur carton, de leur canette. Et la plus grande de ces villes, c'est Philadelphie, en Pennsylvanie.
Alors justement, vous êtes allé voir ce qui se passait dans les poubelles de Philadelphie, si on peut dire, Xavier. On écoute votre reportage, on se retrouve juste après.
Nathaniel Popkin est sans doute l'habitant de Philadelphie le plus consciencieux quand il s'agit de trier ses déchets. Dans sa cuisine, cet écrivain sort un pot vide de beurre de cacahuète, évidemment très gras. Avant de le jeter dans la poubelle bleue, explique-t-il, Nathaniel le passe au lave-vaisselle et il nettoie ainsi tous ses déchets pour un meilleur recyclage. Il retire même la partie souillée de graisse sur une boîte de pizza. Sauf que depuis 6 mois, la moitié des déchets recyclables de la ville finissent brûlés comme des détritus. Et ça, Nathaniel l'a découvert dans la presse.
Quand j'ai appris que ce recyclage, en fait, n'était pas réel, ma tête a explosé. Imaginez une ville d'1,5 million d'habitants qui font tout ça pour de faux. C'est absurde. Ce que nous faisons, c'est une mascarade.
La raison d'une telle mascarade est économique. Depuis que la Chine n'achète plus les déchets américains, le prix du recyclage est devenu prohibitif pour le budget de Philadelphie, explique Mike Ewall, patron d'une ONG écologiste.
Ils n'ont pas réussi à trouver un contrat abordable. Une entreprise leur a donné un prix de $180 la tonne, c'est très cher. Alors la ville a décidé d'utiliser son contrat avec l'incinérateur ici pour brûler ses déchets recyclables. C'est atrocement irresponsable.
Et c'est pour ça que le pot de beurre de cacahuète de Nathaniel, ses plastiques ou ses cartons sont aujourd'hui ramassés comme des ordures ménagères par les camions poubelles municipaux. Direction l'incinérateur de Chester, au sud de la ville, Mikey Wall montre la fumée blanche qui s'échappe de la cheminée. Ça, c'est ce que l'on voit, dit-il. Mais ce qui est invisible, c'est le plomb, l'arsenic, le mercure et les autres substances toxiques qui viennent polluer l'air à quelques mètres d'un quartier d'habitation. Ici, certaines maisons sont carrément abandonnées. Les riverains qui restent se sont organisés contre l'incinérateur. À leur tête, Zulene Mayfield.
Les gens pensent qu'ils sont de bons citoyens à mettre leurs trucs dans les poubelles bleues ou vertes. On ne devrait pas se sentir aussi à l'aise de jeter des choses et puis de ne plus y penser. Parce que ça va quelque part. Et ça a un impact sur la vie de quelqu'un. Pour nous, ça a d'énormes conséquences. Le taux d'asthme chez les enfants ici est 5 fois plus élevé qu'ailleurs en Pennsylvanie.
La mairie de Philadelphie assure que cette solution est temporaire. Mais en attendant, les déchets recyclables de la ville continuent de nourrir l'incinérateur le plus gros et le plus polluant des États-Unis.
Retour dans le studio d'Europe 1. On est toujours en ligne avec vous, Xavier, depuis New York. La Chine a donc fermé ses portes aux déchets des autres. Ça a quels effets économiques aux États-Unis ?
Ça a complètement déréglé le marché du recyclage. Il faut se rappeler que les déchets recyclables ont une valeur. La Chine les achetait pour réutiliser une partie de leurs matériaux. Sauf que quand le plus gros acheteur du marché ferme boutique, c'est la loi de l'offre et de la demande. Le produit perd de sa valeur au grand dam de Joe Valenti. Son entreprise de Pennsylvanie collecte les déchets recyclables pour les revendre.
Le marché ici aux États-Unis est asséché. Personne ne veut prendre nos matériaux, le verre, les canettes, les bouteilles. J'étais payé $30 par tonne, mais maintenant ça me coûte $5 par tonne. Aujourd'hui, c'est moins cher d'aller mettre les recyclables directement dans une décharge.
Et c'est le même mécanisme donc pour Philadelphie. Avant, la ville gagnait de l'argent sur ses déchets recyclables. Maintenant, ça coûterait trop cher de les faire tous traiter.
Est-ce que cette crise des déchets a provoqué une sorte de prise de conscience aux États-Unis ?
Alors oui, ça commence, même si les Américains restent, on le sait, les plus gros producteurs de déchets au monde. Il y a un mouvement naissant pour arrêter de surconsommer des produits jetables. New York vient d'interdire des sacs plastiques à usage unique. Pareil pour les pailles en Californie. Et cette crise pourrait accélérer ce mouvement. En tout cas, c'est ce qu'espère Nathaniel Popkin, notre écrivain de Philadelphie.
La fermeture du marché chinois pourrait en fait être une très bonne chose pour ceux d'entre nous qui pensaient que nous gérions nos déchets de manière morale.
Alors qu'en fait, on les envoyait par bateau en Chine. En fait, on faisait semblant que ça n'était pas à nous, que ça n'était pas réel. Et maintenant, nous devons réfléchir à la cause de tout ça. L'utilisation de matériaux à usage unique, la manière dont nous avons organisé nos vies, où tout est jetable, tout ça submerge notre système. Et ça va nous obliger, j'espère, à créer des solutions.
To create some solutions to this.
Alors, des solutions, justement, est-ce qu'on en voit déjà émerger, Xavier ?
Oui, et il y en a une très ambitieuse qui est en train de naître dans le New Jersey. Je vous emmène à Trenton, dans les locaux de TerraCycle. C'est une start-up innovante en matière de recyclage. Mm-hmm. Dans leurs locaux, tout est construit avec de la récup. Derrière des cloisons faites de bouteilles en plastique, on entre dans la salle de réunion. La grande table, c'est un patchwork de vieilles portes en bois. On y a même laissé une sonnette. Et c'est là qu'on s'assoit avec Tom Zaki, le jeune patron. Son idée, c'est de remettre au goût du jour la bouteille du laitier qu'on déposait, vous savez, pleine devant votre porte le matin et que vous rendiez le soir vide pour être re-rempli. Ouais. Eh bien, il veut faire pareil pour tous les produits de la vie courante.
C'est le principe de la consigne, en fait.
Oui, sauf que là, vous n'avez rien à faire. On vient chercher vos emballages réutilisables chez vous. Okay. Ce nouveau service s'appelle The Loop, la boucle en français. Et voilà comment ça va se passer.
Si vous vivez votre vie avec Loop, ça devrait être incroyablement similaire à votre vie aujourd'hui. La seule différence, c'est que votre pot de glace, au lieu d'être en carton et de finir en déchet, ça sera un contenant en acier inoxydable. Votre jus d'orange sera dans une belle bouteille en verre. Et des centaines de produits, de vos épices, à votre huile d'olive, de votre shampoing, à votre lessive, tout ça sera dans des contenants magnifiquement conçus. Et puis, quand c'est vide, quand votre bouteille n'a plus de jus d'orange ou quand votre pot de glace est fini, vous les jetez. Pas de tri, pas de nettoyage, direct dans une corbeille, comme des déchets. Sauf que vous ne les jetez pas dans une poubelle normale ou recyclable, mais dans une corbeille pour réutilisation. Ensuite, nous venons directement chez vous récupérer les contenants, nous les emportons, nous les nettoyons et nous les redonnons aux producteurs qui les remplissent à nouveau et les voilà repartis dans le circuit.
Ça me plaît bien, ça, bonne idée. Est-ce que quand même ça va pas être plus cher pour le consommateur, Xavier ?
Ah non, parce que sinon ça marchera pas, hein, Tom Zaki le sait bien. Ouais. Ça coûtera le même prix, sauf que vous n'achèterez plus un flacon à chaque fois. À la place, vous financerez le service qui le récupère, le nettoie et le réutilise. Et l'autre condition pour que ça marche, eh ben, c'est de le faire à très grande échelle. Et pour ça, Tom Zaki a convaincu les plus grands groupes mondiaux de participer. Mm. Procter & Gamble, Unilever, Nestlé, Häagen-Dazs et aussi Carrefour en France.
Ah donc en France, on va aussi pouvoir bénéficier de ce service de Loop ?
Oui, et d'ailleurs, je vous l'annonce, vous serez les premiers en France. Dans un mois, le 14 mai, The Loop sera disponible en région parisienne. Alors d'abord pour les courses en ligne et puis physiquement dans les supermarchés Carrefour. Et puis ensuite, ça va s'étendre ici chez moi à New York et puis ailleurs en Europe, au Japon, en espérant révolutionner notre manière de consommer et donc de jeter.
Sur le papier, en tout cas, c'est formidable. Expérimentons, expérimentons. Merci beaucoup, Xavier, pour ce périple. On a commencé un peu déprimé, mais on termine avec une bonne idée qui pourrait nous aider à changer nos habitudes. C'est chouette. Merci beaucoup. À très bientôt.
À bientôt.
Europe 1.
Chose promise, on file à Pékin pour comprendre pourquoi la Chine a soudainement décidé de ne plus importer nos déchets dits recyclables.
Europe 1, les carnets du monde.
13h40, suite du dossier sur le recyclage des déchets plastiques. Nous voici maintenant en Chine, Sophie Larmoyer.
On va faire 3 étapes pour observer cette gestion des déchets plastiques. Chine, Thaïlande et Allemagne. Et la Chine d'abord, bien sûr. Xavier Yvon nous disait le dilemme des Américains depuis que Pékin a fermé la porte aux déchets du monde entier. Pourquoi ce changement ? Quelle est la situation ? Sébastien Le Belzig va tout nous dire depuis la Chine. Bonjour Sébastien.
Bonjour Sophie.
La réalité déjà, c'est que depuis un quart de siècle, la Chine recyclait près de 90% des déchets de la planète.
Oui, et même 95% du plastique européen. Et ça ne concernait d'ailleurs pas seulement le plastique, mais aussi les composants électroniques ou les déchets chimiques. Eh bien, c'est donc terminé.
Alors, pourquoi cette décision ?
La Chine ne veut plus être la poubelle du monde et ses déchets avaient fini par polluer ici les sols, contaminer les cours d'eau ou l'air avec des métaux lourds, provoquant des cancers en série. Le problème aussi, c'est que moins de 10% du plastique qui arrivait en Chine était proprement recyclé. Le reste venait polluer un pays qui n'a vraiment pas besoin de cela, puisque, faut-il le rappeler, la Chine est déjà le plus gros pollueur de la planète. Mais au-delà, il y a aussi une prise de conscience des Chinois eux-mêmes. Ils ont appris à recycler correctement leurs propres déchets. C'est déjà pas mal, vu la taille du pays. J'ai même rencontré des étudiants chinois qui ont ainsi lancé une campagne pour sensibiliser les habitants de leur quartier à utiliser le tri sélectif. Ils installent leur petit stand au plus près des habitants sur le trottoir.
Il faut que vous pensiez à sortir vos poubelles et les trier. Les déchets ménagers doivent être rejetés dans cette poubelle là-bas.
Jusqu'à récemment encore, la propreté des villes laissait plutôt à désirer. C'était les chiffonniers du quartier qui faisaient le travail. Mais depuis peu, les poubelles différenciées, bleues et vertes, sont arrivées et les Chinois s'y mettent avec bon cœur. Écoutez.
Chez moi, avant, on jetait tout n'importe comment. Les déchets en plastique ou la nourriture, on mélangeait. C'était n'importe quoi dans la cuisine. Maintenant, nous avons des poubelles séparées et c'est beaucoup plus propre.
Alors, les chiffonniers ont été obligés de trouver d'autres jobs, mais pas seulement eux, parce que tous ces déchets qui étaient importés en Chine depuis un quart de siècle, on imagine que ça avait créé une sorte d'industrie du recyclage, Sébastien.
Oui, dans cette banlieue de Pékin, par exemple, ce sont plus de 1000 petites entreprises qui ont dû mettre la clé sous la porte. Elles aussi, elles se sont recyclées en quelque sorte, puisqu'elles vendent maintenant des meubles. Écoutez Yan Fan, il est le représentant du Parti communiste dans ce quartier.
Ça n'a pas été facile. Nous avions beaucoup de pression parce que cela concerne beaucoup d'entreprises et beaucoup de personnes, souvent d'anciens paysans. On estime qu'ici, il y avait au moins un millier d'entreprises qui travaillaient dans le recyclage du plastique. Ça représentait des dizaines de milliers de personnes qui risquaient de perdre leur emploi. Ça a été un défi pour nous de changer tout ça.
Et voilà, la Chine, en moins d'un an, a donc tiré un trait sur les poubelles. Et finalement, elle s'en porte très bien. Le recyclage est désormais mieux encadré, traité par les municipalités, au lieu d'être sous-traité à des entreprises qui ne faisaient pas forcément le boulot correctement.
Ouais, merci beaucoup, Sébastien, pour toutes ces explications. Et je vous dis à très bientôt dans les carnets.
Merci.
Les portes de la Chine s'étant refermées, les ballots de plastique venus du monde entier se sont pas mal reportés dans d'autres pays d'Asie. Au premier semestre 2018, selon une analyse de données commerciales rapportée par le Financial Times, les importations de déchets plastiques auraient doublé au Vietnam ou en Indonésie et augmenté, tenez-vous bien, de plus 1300% en Thaïlande. C'est là qu'on retrouve Carole Izou. Bonjour Carole.
Bonjour Sophie.
Alors, la Thaïlande croule sous le plastique ?
Oui, le volume a littéralement explosé après justement le retrait de la Chine de ce marché. Tout ça alors que la Thaïlande est déjà elle-même un gros pollueur, le sixième pays producteur de déchets plastiques dans les océans. Une contre-performance assez remarquable étant donné la taille modeste du pays. On estime qu'elle produit près de 2 millions de tonnes de plastique par an. Plus concrètement, imaginez, les Thaïlandais utilisent en moyenne 8 sacs plastiques par jour et par personne. Mais le gouvernement a annoncé qu'il souhaitait mettre complètement fin aux imports de déchets plastiques d'ici 2021.
Ah, ça veut dire qu'il y a une vraie prise de conscience alors ?
Oui, et deux événements majeurs y ont contribué. Alors, d'abord, la découverte en février 2007 d'une gigantesque île à déchets. En fait, des morceaux de plastique qui s'étaient agglomérés et avaient fini par former une véritable île de plastique de 300 tonnes et 10 km de long qui dérivait dans le golfe de Thaïlande. Et puis, l'an dernier, la mort très médiatisée d'une baleine sur une plage du sud. Elle avait avalé 80 sacs plastiques. On estime qu'environ 300 créatures marines, principalement des dauphins, des tortues et des baleines meurent chaque année dans les eaux territoriales thaïlandaises à cause des déchets plastiques.
Et est-ce qu'il y a déjà un changement dans les pratiques des Thaïlandais, Carole ?
Oui, alors d'abord, ça et là, plusieurs chaînes de grands magasins commencent à réduire leur usage de plastique. Alors ça reste très timide pour l'instant, du type une journée par mois sans sac plastique, mais ça commence. Et puis surtout, il y a en Thaïlande un vrai savoir-faire sur le recyclage des déchets. Tout un réseau de chiffonniers, souvent des personnes âgées, qui ne bénéficient ici d'aucun système de retraite, s'occupent de la récupération du plastique dans les grandes villes. Et on le voit même dans les récents mouvements sociaux qui ont agité la Thaïlande, où des milliers de manifestants ont occupé les rues de Bangkok pendant plusieurs semaines et même plusieurs mois, et bien la gestion des déchets de ces camps géants improvisés au cœur de la ville se passe très bien, tout le monde participe. On estime que sur les 28 millions de tonnes de déchets produits dans le pays, 20 millions sont gérés correctement ou recyclés, d'après un rapport du ministère de l'Environnement.
Belle performance. Et décidément, il va falloir que l'Europe et les États-Unis se débrouillent avec leurs propres déchets, notamment surtout les déchets plastiques. Merci beaucoup, Carole. À bientôt.
À bientôt.
Dernière étape dans ce petit dossier. Qu'en est-il en Europe, justement ? On prend la direction de l'Allemagne. Bonjour Hélène Kohl.
Bonjour Sophie.
L'Allemagne qui a inventé le tri des déchets, c'était en 1991. Et puis ils sont écolos, les Allemands. Mais alors justement, c'est quand même la grosse surprise. Près de 30 ans plus tard, le taux de recyclage du plastique ne dépasse pas les 6%, m'avez-vous dit ?
Oui, et ce chiffre révélé l'année dernière par des chercheurs a choqué aussi les Allemands qui pensaient vraiment être les champions du monde du tri avec, par an et par habitant, plus de 400 kilos de déchets jetés dans les containers de tri. Sauf que trier, ça ne veut pas forcément dire recycler, réutiliser. D'abord parce qu'il y a des erreurs dans le tri, elles représentent plus de la moitié de la poubelle jaune ici. Et puis le plastique, bien souvent, il est trop sale, les pots de yaourt par exemple. Hein. Et tout ce qui est sale est souvent écarté des circuits du recyclage. Après, il y a tous les plastiques contaminés par des substances chimiques qu'on évite de recycler. Et puis enfin, le plastique, contrairement au verre ou à l'aluminium, ne peut pas se recycler à l'infini. Au bout d'un moment, c'est terminé, il est usé et on le brûle. Et donc au bout du compte, sur les 14 millions de tonnes de plastique jeté dans les poubelles jaunes des Allemands, moins d'un million va effectivement revenir dans le système, ce qui fait de l'Allemagne le plus gros pollueur de plastique de l'Europe.
Ces études, est-ce qu'elles ont provoqué une prise de conscience dans le pays ?
Oui, vraiment. Deux Allemands sur trois sont maintenant prêts à ne pas acheter un produit s'il est emballé dans du plastique. Mais ce n'est pas toujours évident de le faire. Hein. Au supermarché, les fruits et les légumes bio doivent être séparés physiquement des autres. C'est une norme européenne. Et jusqu'à présent, la solution, c'était de les vendre sous plastique. Les clients de ce supermarché berlinois sont désespérés.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça laisse sans voix.
C'est une aberration totale, tout cet emballage autour des légumes bio. On devrait interdire aux vendeurs de faire ça.
Alors, message reçu, a dit le gouvernement. Il vient d'instaurer un nouvel impôt. Les entreprises allemandes qui veulent emballer leurs produits dans du plastique doivent désormais s'acquitter d'une taxe.
Mais on ne peut pas toujours se passer d'emballage, Hélène ?
Non, alors c'est pour ça que les producteurs cherchent des alternatives au plastique. Alors par exemple, les matières biodégradables à base de fibres de maïs. Alors c'est pas totalement satisfaisant parce qu'il faut de l'eau pour faire pousser ces végétaux. Ça prend aussi de la place, des surfaces agricoles. Gros retour en force ici du carton. Et puis aussi des contenants consignés. Ça marche très très bien ici en Allemagne. Et puis pour certains fruits et légumes, il y a une méthode qui vient d'être autorisée. Le marquage au laser sur la peau même des potirons ou bien des patates douces. C'est comme un tatouage avec le label bio écrit dessus. Michael, le manager d'un supermarché, nous donne des précisions.
Ce n'est pas un tatouage, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'encre. C'est complètement safe, on peut le manger. Mais nous pensons que le consommateur n'est pas encore prêt à croquer, hop, comme ça, dans une pomme qui serait marquée. Le consommateur doit s'habituer à cette nouvelle façon de procéder. Alors on y va progressivement.
Que disent les clients, Hélène ?
Alors, ils sont plutôt convaincus. Les experts, eux, sont plus prudents, y compris en ce qui concerne la santé. Hein, et puis, ça ne marche pas sur tous les types de pots de fruits, notamment les agrumes. Alors, dossier à suivre. Actuellement, 4 chaînes de supermarchés expérimentent ce procédé en Allemagne.
Merci beaucoup, Hélène. C'est avec vous qu'on boucle cette petite séquence sur les plastiques qui envahissent nos poubelles. À bientôt.
À bientôt.
Europe 1.
Changement de décor, on part rejoindre Joseph Chovanec qui est encore en vadrouille, au bord d'un océan et sur du sable blanc. Le petit voyage en autistan, c'est dans un instant.
Europe 1, les carnets du monde.
Il est 13h51, c'est le moment de faire un petit tour par l'autistan avec vous, Sophie Ramoyer, et bien sûr, Joseph Chovanec.
Il est un peu loin, Joseph, aujourd'hui, dans les îles de l'océan Indien, mais fidèle au poste quand même. Bonjour, Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde, salutations en direct depuis la ravine des patates à Durance.
C'est sur l'île de la Réunion et sans doute inspiré par les magnifiques endroits où vous êtes, vous cherchez où poser vos valises.
Ou plutôt un lieu de vie qui soit beau et agréable. Il n'y a que deux solutions, Sophie. Soit on dépense beaucoup d'argent, on aligne une somme stratosphérique pour vivre dans des lieux demandés ou courus, soit eh bien, on ne dépense que très peu ou pas du tout et on s'installe là où personne n'a pensé s'installer.
Alors où ça, par exemple, pour ce qui est de la deuxième option ? Quand on n'a pas d'argent.
Mais Sophie, pendant des années, mes voyages m'ont donné à réfléchir à ce sujet, en particulier les pays tropicaux qui ont connu la colonisation, l'esclavage, des Antilles à Zanzibar, en passant par l'océan Indien. En gros, dans ces pays, il y a une sorte de tripartition de l'espace, trois zones géographiques qui sont radicalement différentes et qui coexistent. Alors, on a premièrement le ghetto aux grandes fortunes, hein, qui sont souvent issus d'un autre pays, qui ne s'ajournent pas vraiment sur les les lieux de façon permanente. Mmh. Ce sont des espaces bétonnés, mais généralement propres, avec quantité de services et, comme on dirait en anglais, tout ce que l'argent peut acheter. Ouais. On repère ces ghettos sur les cartes par leur nom. Hein. Souvent, il s'agit de la marina quelque chose, par exemple. Ouais. Et quand on veut me faire dîner et quand on n'a rien compris à l'autisme, eh bien, c'est là qu'on m'invite.
Alors ensuite, il y a la deuxième zone géographique dans votre partage. Elle ressemble à quoi ?
Ben, Sophie, c'est la zone, pour ainsi dire, normale. Hein. Mmh. Donc, marquée par le mal logement, les embouteillages à n'en plus finir dans l'outre-mer. Parce que les Parisiens sont loin de se douter qu'ils passent moins de temps dans les embouteillages qu'un Martiniquais ou un Réunionnais moyen. Hein. Mmh. C'est un territoire marqué par la quête désespérée de proximité avec les lieux de pouvoir et d'argent, mmh. avec un sentiment d'amertume et même de désespoir.
Ça donne pas envie, votre deuxième zone. Et la troisième, alors ?
À côté de cet enfer de béton de voiture, il y a le territoire oublié. Hein. Naguère, comme on dit aux Antilles, en temps longtemps, hein, c'est là que se réfugiaient les esclaves en fuite, les esclaves marrons. Hein. Donc, d'ailleurs, beaucoup de noms de lieux hein, de ce type s'appellent marrons, hein, quelque chose. Ou alors qu'on prenne le mot morne, hein, petite montagne dans le français antillais, hein, qui sépare physiquement le monde des exclus du monde dit normal. De nos jours, c'est là qu'on va vivre quand on n'a pas d'argent et qu'on n'espère pas en avoir un jour. Mais Sophie, ce territoire oublié est de loin le plus beau, le plus fascinant. C'est au pied de la montagne Pelée à la Martinique, l'intérieur des terres de la Dominique, mais aussi plus brutalement distinct encore, Mafate à la Réunion, hein, donc dans les montagnes de l'autre côté de la cordillère.
Des lieux tranquilles et donc des lieux qui vous plaisent.
Ah, mais Sophie, tout à fait. Dans mes réflexions de long terme sur l'implantation future d'un refuge de la Société de protection des autistes SPA bis, hein, on pourrait peut-être s'implanter là. Ouais. Le cas de Mafate m'a particulièrement plu. Il n'y a pas de route pour y accéder, donc aucun bruit de voiture ne troublerait nos amis autistes hyperacousiques. Alors certes, il n'y a pas d'emploi au sens habituel du terme en banque, par exemple, mais justement, rares sont les autistes avoir du travail, un biotope idéal ou presque. Et à y réfléchir, je me demande par quelle étrange aberration les gens dits normaux préfèrent passer leur vie dans l'étroite bande de terre bétonnée et surpeuplée et en tirent une telle fierté. Hein. Heureusement d'ailleurs que les non-autistes adorent vivre ensemble en masse compacte et entre eux, car sinon ils auraient tôt fait de submerger la zone, comment dire, potentiellement autistique. Mais chut, hein, comme le dit un sage dicton créole, bois tout, mangez tout, pas dit tout, hein, bois tout, mange de tout, mais ne le dis pas. Bon, certes, à la radio, c'est raté.
Ouais, mais nos auditeurs ne diront rien. Ne vous en faites pas, Joseph. Ils se tairont.
Pas de souci, n'a pas de souci.
Merci beaucoup, Joseph. Vous étiez en liaison Skype avec nous depuis l'île de la Réunion. Je vous dis à dimanche prochain.
À très bientôt.
Europe 1.
Clap de fin, on referme les carnets. Le temps pour nous d'écrire de nouvelles pages avec les reporters et correspondants d'Europe 1. Un grand merci de nous avoir accompagnés. Merci également à ma fine équipe, Sophie Mallier à la réalisation et Florence Gimalac à la production. On sera là dimanche prochain. Rendez-vous à 13h. Et d'ici là, surtout, portez-vous bien.